Bien, alors je vais reprendre la discussion là où Willem l'a laissé, ou du moins reprendre un certain nombre de points qu'il a évoqués, parce que, bon, pour le dire de façon assez simple, vous voyez par le titre, ce que je voudrais faire devant vous aujourd'hui, c'est revenir sur les termes de l'intégration, et notamment le rôle joué par la société, qui est cet espace mystique dont a parlé Willem tout à l'heure. En tout cas, dire une chose assez simple, que je vais essayer de développer, qui est que, en fait, l'intégration est surtout une responsabilité de la société et beaucoup moins des personnes qui y participent. Et donc, l'idée principale, là, je l'ai développée un petit peu, mais le pitch, en fait, de ma présentation, est que les théories de l'intégration ou de l'assimilation, sur lesquelles je ne vais pas revenir dans le détail, je pense qu'il y a eu pas mal de cours qui ont été consacrés à ça, varient entre elles, ont des points de vue relativement opposés, parfois même sur les processus ou sur les mécanismes, les dimensions qui sont impliquées par ces dynamiques d'intégration, et les politiques qui s'en réclament, qui sont un peu moins opposées les unes avec les autres. En fait, admettent l'idée que la société a une responsabilité, mais tendent à l'oublier très rapidement, et en tout cas l'abordent de façon extrêmement abstraite, sans vraiment mettre en évidence, ou en tout cas essayer d'analyser comment le rôle de cette société, ses structures, ses institutions, son histoire, évidemment, qui s'est sédimentée dans un certain nombre de représentations collectives, dans ce qu'on peut appeler notre roman national, comment cet ensemble-là, et y compris le groupe de population qu'on peut qualifier de population majoritaire, a une fonction et un rôle relativement décisif, de fait, dans la possibilité pour des nouveaux venus, ou des outsiders, ou des migrants, quelle que soit la façon dont on va les définir, vont pouvoir participer pleinement à la société. Et pour le dire de façon extrêmement condensée, ce qui est vraiment le sujet principal de l'intégration, c'est comment on passe du « eux » à « nous ». Et ceux qui détiennent les clés de ce passage de « eux » à « nous » sont moins les « eux » que les nous. Et c'est ça dont je voudrais essayer de parler à travers ma présentation. Alors, on l'a évoqué, cette société est souvent relativement évanescente dans les théories de l'intégration. En tout cas, elle est traitée de façon assez désincarnée. Pour tout le dire, c'est un point aveugle. En fait, de quoi parlent les théories de l'intégration et de l'assimilation ? Eh bien, elles parlent sur deux plans, d'un point de vue fonctionnel, quelles sont les structures, les modalités par lesquelles la participation peuvent se produire à la société, comment vont progressivement se mettre en place des effets d'acculturation, de transformation réciproque. La plupart des théories aujourd'hui admettent l'idée, pour reprendre le terme utilisé par les politiques européennes, les Common Basic Principles for Integration, qui ont été décidées à l'échelle de l'Union européenne, c'est un two-way process. C'est-à-dire que non seulement, d'un côté, il y a des impétrants, des arrivants qui vont prendre place dans une société, mais réciproquement, cette société est transformée dans des degrés divers par leur présence et donc se modifie, s'adapte en quelque sorte. Mais évidemment, dans ce jeu de two-way process, on imagine bien que l'équilibre entre les deux parties n'est pas complètement équivalent. Et c'est là probablement le centre, en fait, le cœur de ce qu'on peut appeler les controverses de l'intégration. Ouais, je vais y revenir. Mais au-delà de de la version fonctionnelle, c'est-à-dire quels sont les opérateurs de l'intégration, les institutions, l'école, historiquement l'armée, bon maintenant c'est moins le cas, mais les partis politiques, les syndicats, les structures collectives, les quartiers, les associations, bref, les interactions quotidiennes, un univers extrêmement riche qui va produire ces éléments de création, en réalité, de liens entre les personnes, entre celles qui sont immigrées ou qui sont les outsiders et celles qui ne le sont pas, qui sont le groupe majoritaire, il y a un rôle aussi important qui sont celles des représentations collectives, une dimension idéale et qui est celle du roman national qui détermine en quelque sorte le moment où l'intégration va vraiment se produire. C'est-à-dire quand ce roman national incorpore l'ensemble de ceux qui sont présents dans une société, leur donne une place, il y a là un schéma ultime sur ce processus. Et il y a différentes conceptions ou philosophies de l'intégration, je l'ai évoqué. Alors, bon, il y a beaucoup plus de variantes que ça, mais globalement, en fait, les sociétés peuvent se décrire comme soit ayant pris une perspective assimilationniste. Alors, pour le dire de façon assez schématique, globalement, ces terminologies décrivent, en fait, cette asymétrie que j'évoquais entre, d'un côté, les outsiders, et de l'autre côté, le groupe majoritaire, la société, ses structures, ses institutions. Dans la perspective assimilationniste, de fait, l'idée centrale, c'est qu'il y a une société qui ne se modifie pas, qui a ses privilèges dus à sa légitimité historique et de ses structures et de sa culture, de ses normes et valeurs, et des personnes qui l'incarnent à travers le groupe majoritaire, et que donc les outsiders qui arrivent vont se modifier, incorporer jusqu'au plus intime l'ensemble des éléments qui caractérisent cette société, ils vont devenir des « nous » à travers leur modification complète. Ça prend plusieurs générations, et ça suppose qu'à la fin de ce processus, ils deviennent invisibles dans une société dans laquelle ils ont contribué à la marge, mais ils n'ont pas transformé significativement ni les normes, ni les valeurs, ni l'ensemble social auquel ils participent. Il y a là, Willem disait, ils nous doivent quelque chose, et donc ce que ces invités, selon le terme utilisé, les Gastarbeiter ou les Guest Workers, ces invités qui arrivent, eh bien, ils doivent être polis dans l'endroit où ils arrivent et ils font comme on leur dit de faire. Alors, l'intégration peut constituer une sorte de pas de côté par rapport à cette vision relativement autoritaire et arbitraire des privilèges du groupe majoritaire sur l'ensemble des outsiders, en concédant qu'il y a là le two-way process que j'évoquais, c'est-à-dire qu'il y a quand même malgré tout une possibilité pour la société, une nécessité même d'ailleurs, de faire place, c'est-à-dire d'incorporer un certain nombre d'éléments apportés par ces nouveaux venus, que ce soit dans le champ culturel, dans la participation à des structures politiques, sociales, économiques, bref, que la société ne sort pas complètement identique après ce processus et qu'elle évolue en relation avec cette dynamique de participation et donc de pénétration dans la société de ces nouveaux venus. Alors, ceci étant dit, on voit qu'il y a là un grand spectre possible des modalités de cette transformation et qu'il y a des systèmes de régulation qui mettent en place en réalité des négociations autour des formes d'adaptation et d'accommodation des sociétés avec cette diversité qui les compose. Pour donner des exemples, nous avons beaucoup de controverses sur l'intégration en France aujourd'hui, assez similaires d'ailleurs sur celles qu'il y a aux Pays-Bas ou ailleurs, en particulier autour de la religion, qui est devenue un thème de crispation relativement fort. Et par exemple, une illustration de cette question de l'adaptation et des débats qui peuvent se produire, d'un point de vue très fonctionnel, faut-il avoir des plats de substitution dans les cantines pour des restrictions alimentaires liées à des pratiques religieuses ? Bon. Voilà une question qui paraît assez, on va dire, anecdotique en partie, mais qui en même temps fait référence à des questions éminemment symboliques et identitaires, en quelque sorte, pour des sociétés. Et on voit là des combats féroces autour de cet enjeu d'adaptation des cantines, par exemple dans les écoles, qui me semble éclairer ce qu'on peut appeler des négociations autour des adaptations. Peut-être que dans une quinzaine d'années, les cantines seront avec des propositions multiples de repas et on ne pensera même plus. Mais au moment où ça se produit, on considère qu'il y a là un enjeu pour définir quelle est la place respective des pratiques et leur utilisation ou pas, leur reconnaissance à l'intérieur du pot commun des pratiques qui sont acceptées et légitimes dans la société nationale. On peut multiplier le type de terrain sur lequel ces conflits se produisent, plus ou moins aigus, avec des compromis qui arrivent. Et donc, il me semble que la question de l'intégration, c'est en réalité la gestion de ces conflits. La mise les solutions trouvées, des fois pas, hein, et donc cette dynamique-là est au cœur de ce qu'on peut appeler l'intégration. Néanmoins, dans ce cas-là, on considère toujours, il me semble, dans tous les pays qui se revendiquent d'une forme d'intégration politique, on revendique toujours le privilège central du groupe historique qui, lui, définit les règles et laisse, jusqu'à un certain point, des marges de manœuvre, des capacités, disons, d'action à ces outsiders, mais on reconnaît que ce groupe majoritaire a une légitimité inscrite dans l'histoire, inscrite dans dans sa présence et dans son incarnation dans un certain nombre d'institutions et de structures qui le représentent. Alors qu'un autre type de cas de figure qu'on pourrait qualifier de multiculturalisme ou de pluralisme fait encore un pas de côté par rapport à cette conception-là en considérant qu'on peut tout rediscuter. Il y a malgré tout quand même une histoire, évidemment, toutes les sociétés en ont une, mais les formes d'évolution, les transformations peuvent donner lieu à des reconnaissances relativement avancées de la participation d'entités culturelles, ethniques, raciales, religieuses, qui ont leur place en tant que telles, et non pas de façon périphérique, à l'intérieur de la société. Et donc, on imagine bien entre ces différents modèles, plus ou moins aboutis et plus ou moins réalisés, que les conséquences en matière d'attente, d'injonction en termes d'intégration à l'égard des outsiders vont être assez différentes. Et de ce point de vue-là, les théories de l'intégration doivent s'actualiser de façon différente selon les contextes nationaux où elles vont s'observer et se mettre en place. Il y a un dernier type d'approche qui n'est pas nécessairement distinct des autres, mais qui peut être combiné avec eux, qui est une nouvelle préoccupation qui est devenue très centrale tout au long des années 70-80 et maintenant beaucoup plus forte encore en Europe depuis les années 2000, qui est celle de l'égalité et de la non-discrimination. Je dis un mot là-dessus. L'égalité et la non-discrimination adoptent en fait un paradigme assez distinct, voire même opposé de celui de l'intégration. Si l'intégration, c'est la transformation réciproque des structures et des groupes de population pour qu'elles fonctionnent ensemble, pour créer une cohésion, la non-discrimination et l'égalité n'a pas de point de vue sur ce que sont les individus. Ce que la non-discrimination et l'égalité présupposent, c'est que les structures se modifient pour rendre possible, dans des conditions comparables, la participation à la société de groupes ou d'individus qui ont des différences. Et donc, il n'y a pas, a priori, de point de vue sur ces différences, leur légitimité. Il y a un point de vue sur le fait que ces différences-là ne doivent pas emporter de limitations, d'inégalités dans la participation à la société. Et donc, pour prendre une image assez parlante, quoique caricaturale, l'intégration pour une personne qui est avec un handicap moteur signifierait que pour pouvoir descendre ces escaliers et venir à ma place ici, à cette tribune, cette personne, on lui demande de marcher. Il se trouve que c'est fait comme ça, on fait tout ça. Et donc, si vous voulez venir à ma place, c'est possible, mais pour ça, il faut faire comme moi, ça veut dire que vous marchez. La non-discrimination et l'égalité, c'est de dire, eh bien, quelqu'un avec un fauteuil roulant, en mobilité réduite, peut participer, à même titre que moi, à venir parler à cette tribune. Il faut adapter cet escalier qui rend la chose compliquée, et donc on va mettre une rampe, bon, ce qui n'est pas le cas ici, mais qui est fait dans pas mal d'endroits, pour que cette accessibilité soit réalisée. On n'a pas de point de vue sur le caractère légitime ou illégitime d'avoir une mobilité réduite. C'est comme ça. Et donc, ce qu'on veut, c'est rendre possible, dans une société qui admet la variété et la pluralité et des identités, des appartenances et des modalités de participation, le fait qu'il n'y ait pas d'inégalités qui se produisent à cause de ces variétés. Voilà. Donc, on voit que ces différents modèles vont avoir des conséquences. Et pour donner une illustration de ce qu'est un modèle d'intégration qui s'est exprimé de façon plus explicite, parce que pendant longtemps, ils ont été relativement en creux, c'est-à-dire que les sociétés ne définissent pas de façon très explicite souvent quelles sont les règles du jeu en termes d'intégration. Ici, dans le cas français, à la fin des années 80, au début des années 90, on a créé le Haut Conseil à l'intégration, 89 exactement, pour répondre à une crise déjà identifiée du modèle d'intégration, ou en tout cas une inquiétude autour de toute une combinaison d'événements qui tiennent aussi bien de débats autour du code de la nationalité que d'émeutes dans les banlieues déjà, d'inquiétudes sur la place des immigrés des années 70 qui finalement sont restés et sont pas repartis, et de leurs enfants surtout, qui devenaient de plus en plus visibles dans l'espace social. Et donc, autour de l'ensemble de ces enchaînements-là, on a défini un modèle d'intégration. Et donc, je vais en faire la lecture parce que je crois que les mots sont importants. Il faut concevoir l'intégration non comme une voie moyenne entre l'assimilation et l'insertion. Bon, alors, c'est un peu embêtant parce que c'est exactement ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Mais comme un processus spécifique. Par ce processus, il s'agit de susciter la participation active à la société nationale d'éléments variés et différents, tout en acceptant la subsistance de spécificités culturelles. C'est là où c'est de l'intégration et pas de l'assimilation. C'est-à-dire que les spécificités peuvent être maintenues, culturelle, sociale et morale, en tenant pour vrai que l'ensemble s'enrichit de cette variété, de cette complexité, sans nier les différences, donc là aussi on a la distinction avec la question de l'assimilation, en sachant les prendre en compte sans les exalter. Alors ça, c'est l'approche française, faut pas trop en faire non plus. Hein, on accepte les différences, mais ça ne doit pas devenir un vecteur ou un principe reconnaissance à l'intérieur de la société. C'est sur les ressemblances et les convergences qu'une politique d'intégration met l'accent. Donc ça rappelle que l'horizon d'intégration, c'est la réduction de ces différences pour que, dans la participation de la société, se fasse autour d'une forme d'uniformisation des personnes à la phase ultime de ce processus. Dans l'égalité des droits et des obligations, et de rendre solidaires les différentes composantes ethniques et culturelles de notre société, et de donner à chacun, quelle que soit son origine, la possibilité de vivre dans cette société dont il a accepté les règles et dont il devient un élément constituant. Donc, on voit là un enchaînement qui prête à ce que je rappelais, à savoir, un, il y a quand même un privilège de définition de quelles sont les règles, mais une fois que ces règles sont acceptées, la reconnaissance du maintien de différences qui ne sont pas contradictoires avec le fait d'être une composante à part entière de la société. Donc, on est dans cet élément-là. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, en fait, on entre dans ces séquences à répétition de controverses sur le communautarisme. Les personnes ne se conduisent pas bien, elles sont trop orientées en direction de leur groupe d'origine ou de leur groupe culturel ou groupe religieux. Elles ne sont pas inscrites suffisamment dans l'ensemble de la société. Et donc, on voit là que il y a un fil ténu, compliqué à définir, sur qu'est-ce que sont ces acceptations de spécificité à l'intérieur des règles. Jusqu'où ça va? Et là, on ne sait pas très bien. Alors, je donne un exemple de ce qu'on appelle le modèle canonique de l'assimilation. C'est un des ouvrages de référence des années 60 aux États-Unis qui s'appelle Milton Gordon, écrit par un sociologue Milton Gordon, « Assimilation in American Life », il définit un certain nombre de dimensions qui ne sont pas, selon lui, hiérarchisées, mais enfin, quand même, on lit ici une sorte de dynamique, hein, une sorte de phasage, en quelque sorte. Et je ne vais pas les développer, mais vous voyez que les premières font référence à des transformations connues par les impétrants, par les outsiders, et les dernières, en fait, relèvent de la société elle-même. Behavioral Receptional Assimilation, qui veut dire qu'on ne fait pas de discrimination envers les minorités. Ça, ce n'est pas les minorités qui se discriminent, c'est les majoritaires qui peuvent discriminer les minorités. Civic Assimilation, l'absence de conflit de valeurs. Et puis, Attitudinal Assimilation, l'absence de préjugés envers ces communautés qui sont partie prenante maintenant de la société. Et là, on voit que souvent dans les études sur l'intégration, dont Willem parlait au début de son intervention, on a beaucoup développé le premier volet, c'est-à-dire comment les immigrés et leurs descendants changent au cours du temps et incorporent beaucoup d'éléments de la société d'installation, jusqu'à quel point ils performent, ils sont compétents, dans leur façon de devenir similaire au groupe majoritaire. Et on a moins parlé de la façon dont le groupe majoritaire reconnaissait cette compétence. Est-ce que le groupe majoritaire vraiment fait une place à ceux qui vivent avec lui et dont ils sont appelés à devenir l'un des membres à part entière? Et donc, bon, j'ai déjà développé, je ne vais pas reprendre ce que joue comme rôle la société nationale, même s'il y a une dimension mystique à cette notion de société. Néanmoins, il y a quand même des opérateurs dedans, identifiables, qui ont des attitudes, un rôle concret pour orienter, reconnaître ou pas, la présence et la validité de la participation des groupes minoritaires. Une idée, bien sûr, qu'on peut développer, c'est que une des façons par lesquelles la société majoritaire peut intervenir, en tout cas a une influence sur les trajectoires et la place des minorités, c'est par les préjugés, c'est-à-dire en fait les attitudes, les opinions. De façon plus directe, s'il y a un racisme extrêmement fort dans une société, ça complique considérablement la participation et la présence de ceux qui sont racisés, qui sont exposés à ce racisme. Donc, il y a une première sphère qui est la sphère des représentations et des attitudes. Néanmoins, ces représentations et ces attitudes ne sont pas automatiquement converties dans des comportements. Et c'est ça qui rend les choses un peu compliquées, c'est que ça ne suffit pas de faire des enquêtes, je vais vous montrer quelques résultats, sur les opinions et les préjugés, il faut aussi regarder quels sont les degrés en fait, d'ouverture des sociétés à l'égard des minorités. Comment on peut évoluer quand on est perçu ou défini comme un groupe minoritaire à l'intérieur de ces sociétés, quelles sont les possibilités de parvenir à des places non seulement subalternes, mais aussi des places de prestige, de pouvoir, de représentation. Alors, dans les analyses sur l'intégration du point de vue de ceux qui sont les immigrés ou les descendants d'immigrés, il y a plusieurs façons d'interpréter à chaque fois les résultats. Je vous donne un exemple. Ici, il s'agit de la ségrégation observée en France pour un certain nombre de groupes d'origine qui sont migrants ou descendants d'immigrés, c'est-à-dire nés en France, dans ce cas-là, deux parents immigrés, d'un ou deux. Et l'indicateur que vous voyez représenté ici, c'est le pourcentage de chacun des groupes qui vit dans des quartiers dont les habitants ont parmi les 10% plus faibles revenus en France, c'est-à-dire en fait les quartiers les plus pauvres de France. D'accord ? En moyenne, 7% de ceux qui n'ont pas de lien à l'immigration sur deux générations, qu'on a qualifié de population majoritaire, vivent dans des quartiers qu'on peut qualifier de défavorisés, avec cette définition. D'accord ? Et vous voyez que l'écart est assez fort avec ceux d'origine d'Afrique subsaharienne, Maroc, Tunisie, Algérie ou Turquie, un peu moins pour Asie du Sud-Est, et beaucoup moins pour les personnes d'origine espagnole, italienne ou portugaise. Et ça signale quoi ? Deux choses. D'une part, qu'il y a une forme de bifurcation parmi ceux qu'on peut appeler les immigrés et descendants d'immigrés, entre ceux qui sont d'origine européenne et ceux qui ne sont pas d'origine européenne. Et deuxièmement, qu'on a une mauvaise nouvelle, c'est que si les immigrés sont concentrés dans des quartiers défavorisés, c'est vrai aussi pour leurs enfants qui sont nés, socialisés, scolarisés en France. C'est-à-dire pour ceux qui maîtrisent un peu mieux les codes, qui connaissent les règles du jeu, et dont on peut décrire qu'il y a eu une amélioration de la situation sociale. Eh bien, malgré ça, ils restent confinés dans des quartiers plus difficiles, ce qui veut dire qu'il y a un système ségrégatif extrêmement dense qui assigne des places. Et donc, ça, c'est la première interprétation que je peux donner. C'est-à-dire que si on veut comprendre l'intégration, on va dire là, il y a un problème du point de vue de la mobilité possible à l'intérieur de la société française pour une partie de la population marquée par les origines non européennes. Et donc, un système racialisé, en fait, d'assignation de place qui montre que le modèle d'intégration ne fonctionne pas très bien. Mais la même information est utilisée souvent dans une autre perspective pour dire ces quartiers dans lesquels se regroupent, sont concentrés les personnes qui sont ségrégées, deviennent des quartiers ghettos, dans lesquelles la loi de la République ne s'applique pas et où les personnes qui y vivent, en fait, développent des modes de vie et des références qui sont en rupture avec le reste de la société. Et donc, vous voyez que, au lieu de dire on a un problème dans le mécanisme de l'intégration au sens de la responsabilité de la société à produire une certaine forme de fluidité dans l'accès ici au milieu d'habitat, on en arrive à développer un autre discours qui est de dire, de rendre responsables les personnes qui sont exposées à ces ségrégations et discriminations dans l'habitat, parce qu'elles développeraient en fait une forme de séparatisme à l'intérieur des quartiers où elles sont confinées. Alors, il y a des choses à raconter extrêmement passionnantes, évidemment, sur les modes de vie et ce qui se produit, ce que les sociologues de l'école de Chicago aux États-Unis ont beaucoup travaillé dans les années 20, puis après dans les années 60, autour d'ordre moral, de sphère de construction d'un ordre social local, qui peut être assez différent de celui d'autres quartiers et d'autres villes. Ce qu'on connaît, et pas seulement lié à l'immigration d'ailleurs, hein, on sait bien tous que les sociétés sont des sociétés extrêmement fragmentées dans lesquelles il y a des variations de mode de vie liées à des milieux sociaux et aussi à des conditions d'habitat. Mais néanmoins, vous voyez là, on a un problème d'interprétation sur qu'est-ce que signifie cette statistique. Une autre, par exemple, assez connue, qui est celle sur l'intermariage, qui est un peu un des indicateurs canoniques sur les questions d'intégration. En gros, c'est quoi? C'est que si jamais des groupes immigrés sont endogames et se mettent en union sur plusieurs générations dans un ensemble relativement restreint de partenaires potentiels qui ont la même origine qu'eux, eh bien là, il y a une forme de clôture qui va compliquer en fait la participation à la société, va reproduire cette altérité sur plusieurs générations, et inversement, si jamais les mélanges se produisent, eh bien ces mélanges vont assez rapidement rendre plus compliqué l'identification d'une origine particulière. Imaginez, à chaque génération, on a 2 puissance N ascendant, et donc à bout de 4 générations, enfin 3 générations, on en a 8, hein, ce qui veut dire que si on a 8 ascendants d'origines différentes, quelle est notre origine? Et si les 8 sont de la même origine, c'est plus facile de s'identifier. Donc vous voyez que ces questions-là sont traitées de cette façon-là, mais quand on voit le résultat, souvent on imagine plutôt la clôture venant du groupe minoritaire et on ne parle pas de la clôture du groupe majoritaire. Or, pour pouvoir soutenir à quelqu'un, il ne faut pas simplement aller vers quelqu'un, il faut aussi que cette personne nous accepte. Et donc, quels sont les mécanismes de fermeture à l'intérieur des sociétés, autour des mariages ou des unions, plus généralement interraciales, interreligieuses ou interethniques? Eh bien, il y a peu d'études qui, en définitive, travaillent sérieusement la question de ces hostilités, de ces impositions, de la mésalliance en empêchant ces unions à l'intérieur entre ces groupes minoritaires et les groupes majoritaires. Bon, je ne vais pas parler du résultat lui-même, sinon je reviendrai à la fin. Et donc, je vois que je parle un peu trop lentement, je voudrais arriver à mon dernier point. Les politiques d'intégration aussi ont un rôle extrêmement significatif, évidemment, dans la formation de ces processus par lesquels ils peuvent se produire. Or, ce qu'on constate dans le cadre européen, j'ai pris l'exemple de 4 pays, c'est qu'on a en réalité une instabilité de ces modèles d'intégration. On part souvent de façon un peu caricaturale, mais en fait, ces modèles d'intégration ont connu des évolutions extrêmement rapides dans les 10 dernières années. Les Pays-Bas, Willem y a fait allusion à plusieurs reprises, en réalité, qui était vu comme un pays multiculturaliste avec un objectif et une mise en récit autour de cette dimension-là dans les années 80-90, est passé à un monoculturalisme extrêmement important qui emprunte très fortement les discours et les représentations qui valaient en France, autour de l'intégration dans les années 80. C'est-à-dire que là, on a eu une transformation de ce modèle extrêmement forte dans le cas des Pays-Bas. C'est vrai aussi de l'Angleterre. Bon, le Brexit nous l'a montré, mais le caractère multiculturaliste de la société britannique, qui reste vrai dans sa composition, l'est beaucoup moins dans la façon dont on parle, en fait, de l'identité nationale britannique, de la nécessité de réaffirmer la force de cette identité nationale et des conséquences de ce que, l'ancien président de la Commission for Racial Equality qualifiait de « sleepwalking towards segregation », c'est-à-dire l'existence de communautés relativement fragmentées dans la société britannique et l'exigence de faire ce qui est devenu une politique qui ne s'appelle pas d'intégration, mais qui avait à peu près les mêmes objectifs, qui s'appelle la community cohesion. Donc là, on a aussi, du côté britannique, des évolutions. Et dans le cas français, dans le cas allemand, qui est venu sur le tard à ces questions, qui a une reconnaissance de son caractère pluriethnique du bout des lèvres, je dirais, mais qui a adopté une politique extrêmement assimilationniste, en réalité, dans les faits, et un retour de l'identité allemande, l'identité centrale qui s'appelle la Leitkultur, la culture, comment tu traduirais, guide, voilà, la culture dominante, qui doit organiser en fait, en réalité, les différentes composantes de la société. Alors, dans le cas français, si on veut regarder un petit film, l'évolution, vous voyez les différents pôles. Alors, j'ai rajouté la laïcité, qui est un peu une spécialité française qu'on ne trouvera pas de la même façon dans les autres pays. En 84, on a un moment assez particulier de multiculturalisme, notamment autour de deux marches pour l'égalité en 1983 et 1984, improprement appelées marche des beurs, celle de 83, mais en tout cas qui ont mis sur le devant de la scène une exigence d'égalité, non pas pour des étrangers, qui étaient les personnes centrales du débat autour de l'immigration, mais pour des Français d'origine étrangère. C'est-à-dire, c'était une critique directe du modèle d'intégration en disant la nationalité française, la citoyenneté, cette participation assurée par la citoyenneté ne suffit pas. Ne suffit pas à obtenir l'égalité, ça ne marche pas. Et donc, il y a eu un débat autour de ces années-là qui ouvrait sur une perspective un peu multiculturaliste, vraiment très ténue, mais qui a été tout de suite court-circuité par un autre événement à ce même moment, qui a été la montée du Front National dans les élections municipales et européennes, et donc un débat qui s'est déplacé autour du fait qu'il ne fallait pas laisser l'identité nationale au Front National, et donc une polarisation autour de cette identité, et donc un retour quand même à l'intégration, c'est-à-dire en fait une reformulation du vieux modèle d'intégration qui était plutôt assimilationniste à celui que je vous ai présenté, qui était un peu plus ouvert, mais néanmoins rappelait quand même l'importance de travailler autour de ces valeurs centrales. Et puis dans les années 2000, on a eu un développement qui n'était pas complètement en remplacement, mais qui quand même s'est juxtaposé à cette question de l'intégration, qui était celle de les luttes contre les discriminations. Et autour de la lutte contre les discriminations, il faut se rappeler que Martine Aubry, en 1998, ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, dit que la question de l'intégration, c'est une question finie, c'est pas de ça dont il faut parler. Il faut parler des descendants d'immigrés et de leur présence dans la société. C'est pas un enjeu d'intégration, c'est une question de discrimination. Et, bon, ça n'a pas été vraiment suivi d'effets spectaculaires, mais néanmoins, ça a placé une autre question sur l'agenda politique. Mais ça n'a pas duré très longtemps. En l'espace de 5 ans, on est revenu très fortement à la question, même plus de l'intégration, mais de l'assimilation, de façon extrêmement forte, avec un certain nombre de dispositifs et de discours qui sont venus prendre place. Et en parallèle, 2004, hein, c'est la loi sur le port du voile dans les écoles, qui a cristallisé un débat autour de la laïcité, qui existait déjà, mais qui a pris de l'ampleur à ce moment-là, et qui, depuis, est devenu un élément central. Et en 2015, à l'époque, Jean-Marc Ayrault était Premier ministre, on annonce la fin de l'intégration. En réalité, il n'y a plus de politique d'intégration quasiment en France, sinon une politique pour des nouveaux arrivants, mais il n'y a plus de politique qui s'appelle intégration au sens strict. Ça peut peut-être vous étonner, mais il y a là eu un changement de paradigme assez fort du point de vue des politiques. Alors, je vais dire 2 choses pour conclure. La première, c'est que on voit, du point de vue des représentations, un glissement d'une représentation relativement misérabiliste des immigrés tout au long des années 70-80. En gros, les immigrés sont à fardeau. Ils sont peu formés. Ils ont vécu de plein fouet la restructuration industrielle. Les licenciements massifs les ont concernés au premier chef. Et donc, ils vivent dans des conditions relativement difficile. L'aide sociale, enfin les dispositifs d'intervention sont polarisés autour d'eux. Et donc, le discours du Front National, 3 millions de chômeurs, 3 millions d'immigrés, mais de façon plus générale, il y a l'idée que, en fait, il faut aider les immigrés à sortir des difficultés sociales qu'ils rencontrent pour pouvoir vraiment participer à la société. Mais il y a quand même un problème avec leur, soit du côté urbain, soit du côté socio-économique. Et on est passé à un discours qui a changé, qui n'est plus celui des défaillances, des déficits des immigrés, mais qui est celui de la menace. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les minorités ne sont pas un problème parce qu'elles grèvent les comptes sociaux, c'est un problème parce que, en fait, elles changent le mode de vie des Français. Et ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire, se plaindre, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est un type de discours. Dire celui du grand remplacement aujourd'hui, ou celui de la compétition en termes de normes, de valeurs, en disant les minorités sont aujourd'hui suffisamment nombreuses pour nous imposer, vous vous souvenez les termes de la négociation autour de l'intégration, nous imposer leur mode de vie, leurs normes, leurs valeurs contre les nôtres, alors là, on est dans une lutte à mort. Et c'est, grosso modo, le discours extrêmement violent adopté autour de ces questions du grand remplacement, dans pas mal de milieux ils ont de tribunes, peut-être marginales, mais néanmoins très audibles dans la société aujourd'hui. Alors je vais sauter toute la partie sur la représentation, dont on peut dire d'une façon générale qu'il y a une perception relativement négative, en particulier autour de l'islam, qui aboutit à cette idée qui manifeste ce que je viens de bien évoquer, la question de la religion musulmane, qui est vue comme conquérante. Et vous voyez ici 80%, enfin 73%, des personnes interrogées dans cette enquête, les fractures sociales faites pour le journal Le Monde par Ipsos, qui dit quand on pense à la façon dont ces religions sont pratiquées en France, est-ce que vous pensez qu'elle cherche à imposer son mode de fonctionnement aux autres ou qu'elle ne cherche pas à imposer son mode de fonctionnement aux autres? Vous voyez, il y a là une bifurcation complète. Le catholicisme ou le judaïsme n'est pas vu du tout comme étant invasif, alors qu'à l'inverse, les musulmans sont vus comme essayant d'imposer leur mode de vie. Donc ça illustre ça. Alors je saute tout ça. Grosso modo, quand même, ce que ça veut dire, c'est que quand il faut blâmer quelqu'un sur les échecs de l'intégration, on blâme plus quand même les immigrés que la société elle-même, même si, selon la couleur politique, on peut quand même donner un certain nombre de responsabilités à la société. Et je vais finir par ma conclusion en disant deux choses. Voilà. C'est compliqué de trouver les manifestations de l'ouverture ou de la fermeture d'une société à l'égard de la diversité. On peut trouver des éléments matériels qui sont la proportion de personnes d'un groupe X, par exemple au Parlement, par exemple dans des structures de pouvoir et de décision, que ce soit dans les entreprises ou ailleurs. On peut regarder quelles sont les inégalités entre les uns et les autres, le niveau de discrimination. Il y en a des éléments extrêmement probants qui montrent que les personnes d'origine maghrébine et subsaharienne, en particulier asiatique un peu moins, témoignent d'un haut niveau de discrimination dans leur expérience sociale aujourd'hui en France, dans beaucoup de domaines. Mais on peut aussi faire une autre chose, c'est regarder à quel point cette idée d'invisibilité au cours de l'intégration est performée. Est-ce que ça se produit? C'est-à-dire, est-ce que finalement, ce groupe majoritaire finit par ne plus voir les différences? Ça, c'est la perspective française. Dans la perspective multiculturaliste, la question, ça ne serait pas de ne plus voir les différences, mais c'est les considérer comme légitimes, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire, on sait que vous êtes un peu différent, mais ça ne fait pas de vous quelqu'un qui n'est pas américain. Vous êtes américain et quelque chose. Ça n'est pas contradictoire. Dans le cas français, on a encore beaucoup de mal à pouvoir formuler les deux termes en même temps. Vous êtes guadeloupéen et français. Vous êtes algérien et français. Il y a là des problèmes d'ajustement. Et donc, on a des éléments dans l'enquête trajectoire et origine que nous avons fait en 2008-2009, dont je vous donne l'élément. La première question qui est posée ici, c'est: à quelle fréquence on vous demande d'où vous venez? Bon, c'est une question qui est un peu banale, de curiosité, c'est pas nécessairement offensant, ça peut être fatigant quand même, si on vous le demande souvent. Ça veut dire, en tout cas, qu'on vous voit comme quelqu'un qui vient d'ailleurs, sinon on vous demande pas d'où vous venez. Hein? Donc, cette fréquence, vous voyez, elle est ici symbolisée avec, en rose, la ligne des personnes d'origine d'Afrique subsaharienne ou des DOM. Donc, j'inclus les originaires des Antilles, de Guyane et de Réunion dans cette courbe. Vous voyez que quand ils viennent d'arriver, 50%, on leur demande souvent d'où ils viennent. Et puis, c'est extrêmement stable. Quand ils sont arrivés très jeunes, eh bien, on leur continue à leur poser la question. Quand ils sont nés en France métropolitaine et de parents qui viennent de ces différentes régions, on continue à leur demander. Quand ils ont un parent né en France et un parent qui vient de ces pays-là, de cette région, eh bien, on continue à leur demander. Ça ne varie pas dans le temps. Ce qui veut dire que leur exotisme, en quelque sorte, reste constant et on continue à les percevoir comme différents à l'intérieur de la structure française. Donc c'est ce travail d'invisibilisation que devrait performer le modèle d'intégration, il ne fonctionne pas dans le sens où, à minima, on voit des différences. Est-ce que ça veut dire qu'on fait des inégalités ? Par ailleurs, on sait qu'on fait des inégalités. Donc le modèle qui est censé vous rendre invisible, il ne vous rend pas invisible. Et il ne vous rend pas invisible, pas sur n'importe quel critère, évidemment. Ici, il y a un critère de visibilité qui contredit cette perspective. Ce n'est pas la ligne bleue, c'est-à-dire les Italiens, les Polonais, les Espagnols ou les Portugais qui sont confrontés à cette visibilité. Eux, quand ils arrivent, un accent, quelque chose, fait qu'on va leur demander « Ah ben oui, vous venez d'où ?» ou leur nom. Mais très rapidement, eh bien, ils passent inaperçus. Ils sont membres à part entière du groupe majoritaire. Et quand on fait une autre question qui est « Ok, vous êtes français, mais à quelle fréquence est-ce que vous pensez que les autres vous voient comme un français ?» Et là, on a exactement le même schéma, c'est-à-dire que pour une partie extrêmement significative des immigrés, non, je suis français, mais on ne me voit pas comme un français, évidemment, mais cette perception d'altérité, elle continue, cette non-reconnaissance, elle continue au fil des générations. Vous voyez que pour les personnes d'origine africaine ou domienne, eh bien, elles se considèrent comme non vues comme françaises en métropole dans plus de 50% des cas quand elles sont elles-mêmes nées en France. Et donc il y a là un problème de cristallisation de ces distinctions. Et je termine avec ma conclusion, qui est qu'il faut qu'on change de paradigme. C'est la conclusion. On change de paradigme. Évidemment, si l'intégration, c'est cette adaptation réciproque dont on a vu le jeu, eh bien, on a un problème, non pas du point de vue de ce que font les immigrés ou les minorités en général dans la société française, mais plutôt sur leur réception et la faculté de cette société à ne pas mettre à l'écart, à ne pas spécifier, racialiser ou ethniciser, ou du point de vue de la religion, identifier séparément des groupes en les considérant comme non participant à part entière à la société, malgré le fait qu'ils développent tous les éléments des codes culturels, le respect des normes et des valeurs, mais qui sont français à part entière du point de vue d'un certain nombre de critères de citoyenneté et de participation, mais qui ne le sont pas du point de vue de leur reconnaissance comme dans le récit national et dans les représentations. Et donc, c'est ça l'enjeu, il me semble, aujourd'hui, de l'intégration. Merci.